Cette semaine, on parle de vol d'identité, de drones en agriculture, du roi de DxO Mark et de situations où la photographie altère votre esprit. Vous écoutez Objectif numérique, épisode 102. Stéphane Vaillancourt au micro, en compagnie de François Blanchette.
Salut Steph.
Et Christian Jarry.
Salut Steph.
Messieurs, qu'avez-vous fait côté photo depuis le dernier épisode? Là, François, j'espère que tu as pris la peine d'en faire une ou deux au moins, parce que tu n'en avais pas fait la dernière fois.
J'ai pas fait de photo, mais je me suis appliqué à vouloir en faire une.
Ah oui.
Je me suis commandé une tablette sur Wish, OK? C'est
un... Oh non, attends, tu as pris une photo avec une tablette. Sort.
Ouais.
Bon, Christian, on va continuer non, l'épisode.
Est-ce que je peux terminer ma phrase?
Ben, oui,
je n'ai pas pris de photo avec une tablette. J'ai tenté d'en prendre une pour tester l'appareil.
Okay.
C'est une tablette, OK? Mm-hmm. Commandée sur le site Wish, qui est un genre de eBay de gadget chinois.
Okay? Okay, ouais.
Il y a Tom Top qui existait avant comme ça.
Wish, c'est parce que incroyable. Tu souhaites que ça fonctionne.
Oui, c'est ça.
Plus qu'une semaine.
Écoute, quand j'ai vu le prix, je me suis dit, 36$ là, pour une tablette Android. je vais l'essayer. T'sais. Puis là, ben, en la faisant fonctionner, je me dis, tiens, j'essaye le mode caméra. C'est la première chose que je me suis dit que je vais essayer. On est revenu 10 ans en arrière. Écoute, je suis convaincu que la caméra qu'ils ont installée dessus, c'est une caméra de surveillance, là. D'il y a 10 ans.
Ah oui.
La qualité.
Ah, les caméras de dépanneurs, là, à deux images.
Non, non, non. En fait, pour vrai, là, je pense que c'est une caméra qui était sur un des premiers. Avant l'iPhone. Sur un téléphone avec caméra, disons. Là, on parle, mettons, de 2003, 2004.
Ah, j'avais un Samsung. Je me rappelle pas du modèle, mais tu sais, les téléphones flip.
Oui.
Mais j'avais, écoute, des contrôles pour faire jouer mes MP3 sur mon téléphone.
Ben, tu vois, dessus, quelque chose de ça, cette génération-là, à peu près. Ouais. La qualité de 1 mégapixel, peut-être.
Ouf.
C'est terrible. Je vous l'ai montré tantôt,
oui,
là, la caméra. C'est atroce. Alors, voici ce que j'ai fait en photo depuis la dernière
okay.
fois.
Ben,
c'est t'amusé à rire des photos que tu peux prendre avec ta tablette, finalement?
Non, j'ai fait comme... Bon, je pense que je vais m'en servir pour autre chose que pour des photos.
C'est c'était clair.
Ouais.
Mais dis-toi que... C'est quand même moins pire que les photos de l'appareil photo que j'avais acheté à ma fille quand elle était petite. Un appareil photo pour enfants, là, rose.
Ouais,
là.
Les gens de Vitek,
exactement.
Je sais pas
quoi, là. Ça, là, c'était de la qualité, ce que tu viens de prendre.
Ah, oh.
Toi, Christian, qu'est-ce que tu as fait depuis le dernier épisode?
Et toi, Stéphane?
OK.
Non, ben oui, malheureusement, non, c'est ça.
Bon, ça arrive.
Ben oui, c'est un petit dry spell en ce moment.
Ben,
mais
oui.
J'ai un petit peu de photos sur Instagram, mais sans rien d'intéressant vraiment. Fait que c'est non.
Ben,
rien
c'est plus tranquille en fin janvier, compagnie. Là,
c'est ça.
Ouais. Ben de mon côté, ça n'a pas été super actif non plus. Côté photo.
Faudrait vraiment qu'on se motive. Hein?
Ouais. Non, mais c'est les occasions. Il fait froid,
oui.
Puis on sort moins un peu, puis tout ça.
T'as bien raison.
Par contre, bon, j'ai fait des photos à la fête de mon filleul, des trucs comme ça, mais sinon, ah oui, ben depuis que j'ai le nouveau studio, mon nouveau bureau et tout ça, je me sers beaucoup plus de mon trépied pour faire mes photos de produits. Et ça paraît, et j'adore ça. J'ai là pour le site de Best Buy, j'ai même tourné, on tourne des vidéos quand on fait nos tests. Là, je tourne mes vidéos avec mon appareil sur trépied. J'en ai fait un au sous-sol. Puis ça va tellement bien. Là,
ah,
je trouve
oui.
ça génial. Donc si vous doutez sur la pertinence d'avoir un trépied, ben moi je vous dis ça dépend toujours, là, mais ça peut toujours finir par servir.
Oui, non, c'est clair. Ben, moi aussi, tu sais, je suis dans la même situation que toi. J'ai fallu que je fasse des photos, tout ça. Puis oui, définitivement, là, j'ai apprécié énormément d'avoir le trépied. Mais si ce n'était que de ça, ben, quelques fois que je les ai utilisés, là, j'ai essayé de faire un peu de photos d'étoiles puis des choses comme ça. Mais à part ça, là, j'ai pas sorti bien gros. Mais j'étais content de l'avoir.
Ben oui. Ben, petit conseil d'ailleurs, évidemment, on avait déjà mentionné à plusieurs reprises, quand vous êtes sur un trépied, vous désactivez la stabilisation optique parce que ça va essayer de compenser pour un objectif qui ne bouge pas ou un boîtier qui ne bouge pas. Mais aussi, ce que j'aime beaucoup faire, c'est mettre la minuterie à 2 secondes. Parce que comme ça, il n'y a pas de mouvement. Si on appuie trop fort sur le déclencheur, ça laisse le temps à l'appareil de se stabiliser. Parce que même si on a bien resserré notre trépied, en relâchant l'appareil, il y a toujours un petit mouvement. Il se passe toujours quelque chose.
Je suis content. Moi, j'ai une petite manette que j'avais achetée il y a longtemps. Là,
ah oui, une petite télécommande.
Télécommande, là. Là, ouais, fait que ça me permet d'utiliser pour
aussi,
ça. Ouais.
Sinon, parce que moi, ce que j'aime beaucoup, c'est évidemment, quand tu as un trépied, tu en profites, tu mets ça à ISO 100, puis là, tu prends l'ouverture que tu veux pour voir la portion du produit que tu veux. Mmh. Oui, mais avec mon objectif macro, là, le 90 mm, là, je peux te dire qu'il faut souvent que je sois à F8, F11, F16 pour la prendre profondeur, ma photo. Ouais. Ça prend beaucoup de profondeur de champ. Puis, je prends des photos, des fois, ça me prend 5 secondes d'exposition. Sauf que la photo est impressionnante, elle est vraiment cool, juste pour moi.
Ouais.
Et d'ailleurs, ça m'amène à vous parler de mon nouvel achat, mon écran 27 pouces 4K que vous avez vu en arrivant.
Oui.
Très beau.
C'est, là, je peux, quand j'édite mes photos dans Lightroom, c'est merveilleux. Je vois beaucoup plus de détails. Bon, comme je l'ai expliqué à plusieurs personnes déjà, je ne veux pas devenir fou avec ça non plus, le détail dans les photos, parce que généralement, pour mes textes, je n'ai pas besoin de haute résolution. Puis même pour Flickr, je prends du 2 mégapixels à peu près, du 2048 par 1000 quelque chose. Mais je trouve ça vraiment intéressant quand même parce que on voit des fois des erreurs qu'on va faire ou tu sais, des petits trucs. Puis ça permet de pousser un peu ou de voir les limites de l'appareil photo, de l'objectif, n'importe quoi.
Exact. Comme j'ai vu souvent aussi, faut pas, comme tu dis, faut pas en faire une fixation non plus parce que tu vas devenir fou sinon à un certain moment donné.
Ben, surtout, on s'en va où avec ça? On le diffuse sur quoi?
Qu'est-ce que tu veux en faire?
Exactement. Si c'est pour aller au grand écran, OK, là, ça va être important. Mais si c'est pour aller sur un mobile, sur le web, quelque chose qui ne s'affiche pas super gros, comme tu disais, il faut faire attention de ne pas trop capoter avec ça.
Non, c'est ça. Mais moi, c'est question de satisfaction personnelle. Voir ma photo en plus gros sur mon écran, plus détaillée, puis de l'apprécier plus pour moi. Là, parce qu'au final, elle va se retrouver, c'est ça, soit à 1024 ou 2048 pixels de large. Il n'y a personne qui va voir la différence.
Non, moi, ce que j'aime le plus, parce que j'en ai testé quelques-uns, comme je vous avais parlé des écrans 4K, ce que je trouve le fun, c'est la grosseur de l'écran de travail.
Oui.
Puis, tu sais, de ce côté-là, Mac est un peu plus avancé, je trouve, que le PC, parce qu'on travaille souvent avec les fenêtres maximisées quand tu es dans Windows, ce qui est moins le cas dans Mac. Parce que par défaut,
je travaille à deux fenêtres.
Ouais, c'est côté ça. De l'autre. Mais t'es rare. Il y en a beaucoup que je connais qui utilisent tout maximisé. Fait que ça enlève un peu cet écran-là, mais tu sais, tu peux avoir 3-4 choses ouvertes. Tu as ton affaire, ton fil Twitter, tu as ton email, tu as tes affaires. Ouais. C'est ça que moi, je trouvais le fun d'un gros écran ça en 4K. Là, c'est génial.
Souvent, là, j'ai mon, mettons, Word d'ouvert pour taper mon texte, puis j'ai mon navigateur, j'ai Chrome à côté. C'est ça. Là, je passe d'un à l'autre, puis c'est vraiment génial.
C'est
pour
là
ça,
que tu gagnes, moi, je trouve énormément.
Non, définitivement. Puis c'est ça, dans Photoshop, dans Lightroom, tous ces trucs-là, là, tu vois vraiment plus les détails de ta photo. Tu as moins besoin d'aller toujours zoomer
Puis tes menus sont maximum. Plus petits. Ça a l'air niaiseux, mais c'est le fun, ça, avec.
Oui. Non, j'aime bien. Sinon, rapidement aussi, je me suis amusé, pas à faire de la photo, mais à imprimer des photos, parce que Fuji m'avait envoyé la petite imprimante portable Instax Share SP2. Que j'avais vu en démonstration quand je suis allé faire la marche photo là, avec les Fuji Guys au mois de juillet. Ils avaient présenté ce nouveau modèle-là, puis ils me l'ont envoyé avant les fêtes et tout ça. Par contre, ils m'avaient envoyé juste du papier monochrome. Alors, j'avais imprimé une photo ou deux pour tester le noir et blanc. Ça sortait super bien. On parle de Fuji quand même. Le noir et blanc, ça les connaît.
Mm-hmm.
Et là, ma fille a vu cette imprimante-là, elle a dit « Ah, j'aimerais ça imprimer des photos. » J'ai dit « Oui, mais c'est juste en noir et blanc. » Elle a dit « Est-ce qu'on peut en trouver du papier en couleur? » J'ai dit « Ben oui. » Ça a été le petit coup de pied au derrière que ça m'a pris. Puis j'ai trouvé, je vous jure, à moins qu'il y ait eu un bug informatique, j'ai trouvé le dernier ensemble de papier couleur dans les magasins Best Buy de Laval, Montréal et Toronto.
OK.
Ah bon?
C'était impossible à réserver en magasin à partir d'un navigateur. Là. J'ai réussi à réserver au magasin le plus près de chez moi. Ça m'a donné un message d'erreur. Et puis, j'ai plus jamais été capable d'en réserver nulle part.
OK.
Soit que ce soit sur mon téléphone, sur un PC.
Ben, je sais que Best Buy m'avait demandé de parler beaucoup des appareils photo comme ça parce que c'était très, très, très en demande pour Noël. Mm-hmm. Fait que c'est peut-être ça. Ils ont peut-être eu de la misère avec
l'approvisionnement
de papier.
Mais c'était vraiment le dernier paquet. C'était justement un paquet des fêtes. Il y avait, parce que ça fonctionne par cartouche. C'est une toute petite imprimante. Je vais mettre des photos dans les notes d'épisode. qui imprime un peu comme les appareils Polaroid. C'est une photo qui va sortir peut-être en 4 cm par 6 cm, là, quelque chose comme ça. Puis, à peu près, hein, je pense.
Ouais. Ben, c'est un petit peu plus large que. C'est presque deux fois large
4
que.
4 par 7 cm, quelque chose comme ça. Mm-hmm. Mais c'est vraiment le même principe que Polaroid. La photo sort, puis là, on attend et ça va apparaître en une minute et demie, deux minutes. Puis, ça sort très bien, c'est très amusant. Ouais. Bon, il y a des limites quand même. J'avais une photo où c'était très turquoise ou aqua, là, une murale d'un petit café. Puis, c'est sorti plus bleu sur la photo. Mais sinon, la plupart
du temps. Comme je te dis, moi, d'abord, moi, c'est intentionnel.
Oui, ben c'est fait surtout, je dirais, pour les enfants, les ados, pour s'amuser là, à sortir des petites photos. Oui,
mais d'après moi, c'est voulu pour donner le look Polaroid ou avec ouais, les photos, tu sais, les couleurs distorsionnées, des choses comme ça. D'après moi, c'est intentionnel par rapport à ça.
Ou c'est une limitation des produits chimiques c'est dans possible. Le papier. Hein.
C'est possible, ça aussi.
Mais bon, ceci dit, c'est super intéressant, c'est vraiment amusant. On sort une petite photo, on peut la donner à quelqu'un comme ça. Je vais probablement la traîner si je vais... en voyage à un moment donné. Le petit défaut, je dirais, c'est que, bon, comme j'ai expliqué, ça fonctionne avec des cartouches. Donc, on met une cartouche de 10 photos. Ça revient à peu près à 1 $ la photo. Mm-hmm. Peut-être un petit peu moins, là, mais c'est environ 1 $, oui. Et si on met une cartouche couleur, bien, il faut la finir avant de mettre une autre cartouche parce que le moment où on referme le couvercle, l'imprimante va par défaut enlever la pellicule protectrice qu'il y a dans le paquet de feuilles, le paquet de photos. Et là, s'il n'y a plus de pellicule protectrice, qu'est-ce qui arrive?
Ça va exposer.
Ça sort une photo. Non, ça enlève carrément une photo de la cartouche.
Ah boy, OK, c'est pire.
Ouais. Donc là, on peut essayer de la remettre, mais elle va ressortir de la minute qu'on va refermer le couvercle. Donc, on perd une photo si on change de cartouche.
Il y en a combien par cartouche?
Il y en a 10.
OK, c'est quand même pas si mal.
Non, c'est pas si mal, mais on fait l'erreur une fois, puis après, on se dit, ben je vais finir mon paquet couleur ou mon paquet noir et blanc parce qu'on gaspille 1 $ à chaque fois.
Comment tu envoies les photos à l'appareil?
Oui, on se connecte sur cette petite imprimante-là par Wi-Fi avec une application mobile Android, iOS. Puis, on établit la connexion avec un petit mot de passe tout simple. Ben, c'est peut-être même par Bluetooth parce que le mot de passe, c'est 4 chiffres, je pense. Donc, au départ, on peut le changer. Ça, c'est bien, par exemple, parce qu'on ne veut pas nécessairement que quelqu'un se connecte à notre imprimante. Oui. Mais après ça, ce qui est bien, c'est que sur l'imprimante même, il y a 10 petits points blancs. Donc, ça indique la quantité des photos qui restent dans la cartouche.
Simple comme bonjour.
Oui, c'est super simple. Mm-hmm. Donc, il reste 5 petits points blancs, ben, il vous reste 5 photos dans la cartouche. Mm-hmm. Et ça va le dire aussi dans l'application qu'il en reste 5. Puis, il vous suffit... Moi, ce que je fais souvent, c'est que quand je prends mes photos avec mon appareil Sony, je les envoie sur Flickr ou je les envoie dans l'application de Sony, Sony Play Memories.
Ouais.
Donc, ça les transfère dans mon téléphone. Ou si je les envoie sur Flickr, ben, je les télécharge par la suite dans mon téléphone. Puis j'ai une photo à 2048 par 1500 quelque chose. Puis là, après, ben, c'est tout simple. Ça se retrouve dans notre galerie. Puis on prend la photo qu'on veut. On lui dit « connecter et imprimer ». Puis ça imprime la photo. Ça prend au total là, 1 minute et demie, 2 minutes. La photo est imprimée et est apparue sur le papier. C'est pas très long.
Pas mal. Ouais. Je serais curieux de savoir si les appareils Sony sont capables d'envoyer les photos directement à l'imprimante. Pas Sony, Fuji serait capable d'envoyer.
Mais moi, de ce que je comprends, c'est une connexion Bluetooth. Fait que...
Ouais, d'après moi, tu passes par l'application quand même.
Ouais.
Parce qu'il existe aussi un appareil photo Fujifilm Instax qui fait le même principe que ça, mais en format Polaroid. Là, si on veut, l'appareil photo va prendre la photo et la sortir tout de suite.
Non, en fait, c'est la même que ça.
Oui, c'est ça. C'est les mêmes photos.
Il y en a des plus grosses. Mais...
Sauf que c'est l'appareil photo qui imprime la photo, comme un Polaroid à l'époque.
Je suis d'accord.
Mais c'est ça. Sinon, un appareil photo Fuji, d'après moi, va aussi passer par l'application mobile.
Ça aurait été génial, tu sais, avec le Wi-Fi maintenant, ça aurait pu être le fun.
Je ne dis pas que ça se fait pas. Non, non plus.
C'est une simple curiosité. Je ne voulais pas te pogner en défaut.
Non, non. Mais ça me fait penser que quand on recevra le X-T2, on pourra l'essayer. Oui. Puis sinon, à la limite, on fera une petite recherche sur Google aussi, mais l'essayer, c'est encore mieux. On peut le voir de nos yeux. Et ben voilà. Donc, j'ai pas fait.
Faudrait pas que j'en parle à ma fille de ça.
Moi, la mienne, écoute, elle m'a passé une cartouche et demie.
J'en doute même pas. Mais moi, elle voulait l'appareil photo, justement.
Oui. Ben moi aussi, elle voulait ça. Mais moi, j'ai dit, pourquoi acheter l'appareil photo? J'ai l'imprimante déjà.
Ben oui.
Je lui ai dit, ben, je vais te prêter mon X6. Puis elle va pouvoir se pratiquer à faire de la vraie photo avec des paramètres, tu sais, le mode, un des modes automatiques ou le mode manuel. Puis après ça, ben, elle a un téléphone Android. Évidemment, il n'y a pas de carte là, pour faire des appels, mais elle a un téléphone Android qui lui sert d'espèce d'iPod.
Mm-hmm.
Donc, elle va pouvoir utiliser l'application mobile. Elle l'a déjà sur son téléphone de toute façon. Puis c'est comme ça qu'elle a imprimé ses quelques photos. Cool. Ouais, ouais. Non, ça a beaucoup de plaisir. Bon, maintenant, on va passer au bloc nouvelles. François, tu avais une petite nouvelle au sujet de vol d'identité.
Oui. Triste nouvelle, messieurs. En fait, la technologie, encore une fois, qui vient nous menacer.
Pas encore ça.
Ben oui.
La technologie peut être menaçante.
Eh oui. ça peut faire peur. Selon le National Institute of Informatics au Japon, prendre et publier une photo d'une personne ou soi-même en faisant un selfie qui fait un signe de peace.
Donc, un V avec ses doigts.
Comme le V de la victoire, tous ces signes-là. Ouais. Ouais, c'est ça. Peut mettre cette personne-là en position de vol d'identité.
Comment?
What?
Est-ce que vous pouvez deviner comment ça se passe?
On voit les empreintes digitales à cause de la résolution.
Exactement.
Hey, c'est fou. Hein?
La technologie de reconnaissance d'empreintes digitales est tellement avancée que combinée avec la résolution qu'on a sur les caméras, bravo Stéphane, sur nos appareils maintenant, on peut se faire voler nos empreintes digitales et donner un accès à certaines personnes.
Avec moi, dans des photos, je fais rien d'autre que des doigts d'honneur maintenant.
Oui, comme ça, il est de dos. Ton doigt est de dos.
Il
n'y
a pas de danger.
Ouais, c'est
ça. Non, check bien, ils vont trouver avec le reflet dans mes lunettes ou quelque chose du genre.
Ça va s'en venir comme ça. Dans les films, ils le font déjà.
Hein. Oh, CSI, oui.
Non, mais je te jure, j'avais pas lu les notes d'épisode, mais ça fait peur.
Ben, écoute, attends, là. Faut prendre ça aussi avec un grain de sel. Dans une expérience, juste pour vous donner une idée, là, comment ils ont réussi à faire ça, dans une expérience, les chercheurs étaient capables de capturer des empreintes à 9 pieds de distance. Okay? Okay. C'est 3 mètres du sujet. 3 mètres, c'est quand même loin, là.
Ouais.
Mais la résolution le permet. Bon, évidemment, c'est dans des conditions idéales.
Parfait.
C'est là qu'il faut tracer la ligne.
Ouais.
On parle...
grande luminosité, etc.
Oui, on commence par ça. Il faut que la lumière soit bonne. Il faut que les empreintes ne soient pas... Il faut que ce soit contrasté, finalement.
Il ne faut pas que tu sois en ISO 3200 sur une 7D.
Exactement. Puis, il faut que la lumière, ça vient trop de face, bien évidemment, ça ne donnera pas de contraste dans le monde.
Ouais,
le focus, évidemment, hein, ça ne prend rien pour que le focus soit ailleurs que sur les fameux doigts.
Oui, il y a beaucoup de contraintes, là, c'est sûr. Là.
Il y a beaucoup de contraintes. Ouais. Il faut aussi que l'appareil, si on poste ça sur des réseaux sociaux, j'en ai parlé au dernier épisode, il y a la compression qui s'applique. Donc, on perd la résolution. Ouais. Probablement que ça ne sera pas lisible. Par contre...
Oui, c'est vrai. Le seul avantage à publier des photos où on fait un signe de peace sur Facebook, c'est qu'on ne pourra pas se faire voler son identité.
C'est ça. Mais on s'entend que ça s'en vient.
Oui, oui.
Parce qu'un jour, ils vont trouver une façon de ne pas trop perdre de résolution, j'imagine, sur les réseaux sociaux.
Si tu vois quelqu'un qui prend ta photo quand tu te promènes avec un piece, là, part après à courir après son téléphone. Ouais.
Hey! Non, mais
tu peux pas faire tant d'extrapolation que ça sur des... Ben, peut-être qu'on va...
Ah non, il y a des logiciels qui font ça, comme la reconnaissance faciale de l'iris aussi, on est rendu là. Mm-hmm. C'est plus juste dans les films. Ça existe aujourd'hui. On peut passer les douanes avec ça. J'ai ma carte Nexus. Je passe devant la machine, c'est la reconnaissance de l'iris.
Bon, ben je fais comme Luc Plamondon, je porte des lunettes fumées 24 heures.
Oui, c'est ça. Mais on pourrait lire les empreintes digitales de quelqu'un avec son téléphone si on a accès au fichier original, évidemment. Là, fait que ça se peut aussi. Un vol de téléphone, regardons ça, il y a un selfie, il fait un signe de peace. Oh, j'ai ses empreintes digitales. On n'est pas si loin que ça. Il y a un petit warning. Il y a quelque chose qui se passe. Ouais.
Soyez prudent.
J'imagine très bien un épisode d'une série télé quelconque là, où est-ce que c'est ça. Tu vois le gars qui fait faire ça, puis l'autre qui fait ça. Avec un gros appareil photo, prend juste les doigts, puis tout ça.
Ben écoute,
il arrête quoi à faire
avec ça? Il y a 5 ans, tu vois ça dans un film, une série télé, tu fais comme bon. Ça va exister un jour. Mais on est là.
On est
rendu là. Et voilà, en 2017.
Bon, ben merci. Parlant de modernisation ou en tout cas de performance qui s'améliore avec le temps aussi, il y a l'industrie des drones qui est appelée à connaître une expansion, sinon une explosion d'ici 2021.
Uh-huh.
On parle de 2,9 milliards de dollars comme industrie d'ici 2021, mais l'industrie des drones en agriculture.
Mm-hmm.
Oui, donc on pourrait penser que les fermiers sont un peu en arrière côté technologie, mais non. Généralement, c'est une industrie qui se garde quand même assez au fait des dernières technologies, hein, que ce soit juste pour monitorer, surveiller des animaux, la production, ben, ces trucs-là.
Si je peux me permettre, nous, citadins, on n'est pas vraiment habitués à voir ce qui se passe chez les fermiers.
Non, c'est ça.
Moi, je suis allé faire un tournage au Saskatchewan il y a quelques années. J'ai vu comment que la machinerie est avancée là-bas. Ouais, hein. Vous n'avez même pas idée. Oh, les tracteurs sont conduits par GPS tout seuls dans le champ. Font leur travail de récolte. Ouais. C'est pour vrai, là, c'est juste assez incroyable de voir ça. Mm-hmm. Au Québec, j'ai vu des fermes laitières, les vaches vont elles-mêmes se faire traire dans un robot parce qu'elles sont habituées de se faire traire à une certaine heure. Ben, ils vont se placer dans le robot. Le robot les trait. Oui. Et
les traits d'un trait.
Oui. Elles retournent dans leur enclos.
Eh ben.
Ça se fait tout seul. Le fermier, il fait juste superviser ça, mais si jamais la machine à jam ou quelque chose comme ça. Mais non, c'est ça. Ça se passe beaucoup, la technologie. Puis ça m'étonne pas. Des drones que tu parles.
C'est un rapport de la firme de recherche Zion, qui évaluait le marché en 2015, le marché des drones agriculturels, à 673 millions, on parle toujours de dollars américains, là, et pour lequel la croissance a été extrapolée justement jusqu'en 2021 à 2,9 milliards de dollars.
Ouais, mais avec Amazon qui veut livrer avec des drones, avec ci, avec ça, ça sent bien tout, là, c'est clair.
Ouais. Ah non, c'est. Mais c'est ça. Comme tu dis, François, nous, citadins, on n'est pas trop exposés à ce.
Ah non,
cet univers-là.
C'est un coup de bêche d'en face, là, tu sais, quand j'ai vu ça, là.
Il a appris du maître.
Oui.
Oh, en bon. Autant que tu fasses pas comme le gars qui a fait voler son drone au-dessus de la Space Needle à Seattle et qui a tombé sur la Space Needle.
Pour vrai.
Uh-huh.
Ah, mais il y a toujours des.
Oui, ouais. Mais là, il se fait poursuivre.
Ben, je comprends.
Mais ça va y
coûter. Ah, mais attends, on va entendre ça une fois par. My God, à tous les mois, on va entendre des accidents de drone. Plus ça va aller, plus qu'il va y en avoir. Ben là. Ouais. C'est la loi du nombre. Là,
là, ils vont revenir avec les aigles qui chassent les drones. Là.
Oui, voir la police des drones.
Ouais, c'est clair, ça sent bien.
Aïe, aïe, aïe. Bon. Toi, Christian, t'avais quoi de ton côté? Oh! Il y a un nouveau roi pour le site DxOMark.
DxOMark, on en a déjà parlé dans le passé. Oui. C'est un site qui est répertorié, bon, selon certaines caractéristiques, là, les appareils, ça dit quelle est la meilleure qualité, etc. Puis, beaucoup de monde pensait que c'était un site qui cotait les appareils jusqu'à 100.
Oui, parce qu'on disait c'est une note sur 100, mettons. Oui, c'est vrai.
Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai parce qu'il y a un nouveau roi et il a atteint 108.
Oh!
C'était quoi? C'était qui l'ancien?
L'ancien, c'était A7R2.
Ah, okay. À 98.
Mm-hmm. Ah oui.
Hey. Sauf qu'ils sont pas fous, des ExoMark, parce que oui, tout le monde était porté à penser ça. Ah, il y a 98%, il y a 92%.
Ben, il n'a jamais dit que 100%.
Peut-être. Peut-être fait prendre à leur propre échelle.
Ben, probablement qu'eux aussi, au départ, ils allaient dire ça. Puis après, ils se sont rendus compte, oui, mais au fur et à mesure que la technologie va avancer, on ne peut pas descendre le score des autres appareils.
C'est ça. Ouais.
Donc, ils sont pris avec leur propre échelle, ils sont obligés de monter.
Ouais. Ouais.
Et ce qui a monté la chose, c'est le Red Helium 8K S35.
Oui, que je connais.
C'est
que tu connais,
assez
hallucinant.
Hallucinant. 35,4 mégapixels. C'est une caméra, celle-là. C'est pas un appareil photo. C'est RED.
Ah, c'est RED, hein, c'est ça.
Donc, on a ici un petit appareil photo qui fait du vidéo 8K à 60 images par seconde. ça commence à être assez impressionnant. C'est juste, tu sais, comme eux autres, ils mettent en perspective, là, c'est 60 photos de 33 mégapixels RAW par seconde.
Ooh.
C'est assez impressionnant.
Oui.
Tu peux faire du vidéo 120 images par seconde en 4K ou 240 en 1080p,
HD, là,
c'est ça.
Le petit HD.
En fait, non, standard. En 2K. Ouais. c'est un peu de merde. Là. Mais si ça vous intéresse, si vous êtes. Si ça vous voulez vous procurer cet petit appareil-là, c'est un 49 500 $ US.
Ouais, ben, de toute façon, François l'avait dit. Quand il a dit j'ai déjà travaillé avec ça, ça impliquait En tout cas, ça devenait implicite que
je n'ai pas travaillé avec
ça. Ah non, OK, tu la connais.
Je l'ai vu.
T'as travaillé avec des reds,
j'ai vu ce que ça fait non plus.
Même pas?
Non, j'ai pas eu la chance de travailler avec ça. C'est parce que c'est pas tout à fait dans le...
Ouais, c'est vrai que toi, t'es plus dans télévision.
Exactement. En télévision, rares sont les producteurs qui se payent un directeur photo qui travaille avec ça ou une production. C'est très rare.
Ouais, parce qu'il va charger pour l'équipement puis ça coûte plus cher, c'est ça?
Ça coûte plus cher. Ça coûte plus cher de post-production. Écoute, on remplit une carte avec ça, dans le temps de le dire. C'est plus pour des séries lourdes, des films, des longs métrages, des trucs comme ça. Mm-hmm. Mais en télévision, c'est rare qu'on voit ce type de caméra-là. C'est juste too much.
Mais ça
donne des images. C'est du cinéma.
C'est
du cinéma.
C'est pour projeter justement sur le grand écran. Fait que ça prend de la bonne qualité.
Ben oui, ou avoir un look là, d'une série qu'on veut qu'il y ait... je donne un exemple. Qu'est-ce qui a tourné avec ça? Ben, les Reds, on en voit sur plusieurs projets de publicité. Mais il y a une émission de pompiers qui a été tournée, qui a été diffusée à TVA l'an passé. Je me rappelle pas comment ça s'appelle. Caserne quelque chose. Ça a été tourné en 4K, Red, diffusé à... Vidéotron a fait la publicité de ça parce qu'ils sortaient leur terminal 4K.
Ah, OK.
Là, tu pourrais écouter cette émission de pompiers-là. Les images sont superbes.
Ben oui.
Mais le 8K, c'est parce que ce qui est incroyable avec le 8K, c'est comme en photo. C'est que là, on peut cropper.
Oui.
On peut agrandir l'image. Tu sais, si on se dit, on s'en va en finale, on s'en va en 1080. Mais là, on se ramasse avec une image, avec plusieurs types de cadres qu'on peut faire dans l'image grâce au cropping. Mm. Si tu sais que tu sors en 1080 en bout de ligne, my God, en 8K, ça n'a pas de sens.
Tu vois, juste par curiosité, je suis allé voir sur le site de Red, il y a une catégorie chez Shot on Red, des séries télé qui ont été faites sur Red. Il y a Stranger Things de Netflix qui a été tiré, a été fait là-dessus.
Ouais.
Mr. Robot aussi.
Okay,
c'est des grosses séries quand même, des grosses affaires assez populaires.
Oui, c'est sûr qu'il y a de la post-production, mais on voit qu'il y a quand même... on voit le style de l'image aussi quand même.
Où est-ce que ces caméras-là se démarquent, c'est dans ce qu'on appelle la plage dynamique d'ouverture, les stops. Une caméra comme une Red doit aller chercher, je me rappelle pas c'est combien, 15, 16 stops d'ouverture.
J'allais dire 14, mais 15, 16
c'est au-dessus de 15. Là. Donc, on se ramasse à voir, pour une image donnée, on voit dans le noir, puis on voit dans les hautes lumières. Ça ne brûle pas dans les hautes lumières. On voit dans le noir, entre guillemets. C'est là qu'on voit une différence. Là.
OK.
On a-tu hâte d'avoir ces appareils photos-là dans les mains? Hein? Quand tu y penses, je veux dire, c'est parce que cette technologie-là... là,
ça va venir un jour.
5-10 ans, là, ça va arriver dans les appareils normaux, là, ou à peu près. Là.
Ouais.
On a hâte.
Ben merci. On va passer au topo de François, parce que là, j'ai hâte là, de savoir comment la photographie peut-elle altérer mon esprit.
C'est comme du LSD.
Moi, c'est un sujet qui est... Oui, c'est ça. Il y a cette façon-là qui est la façon facile. Ou il y a l'introspection que je vais essayer de vous transmettre, c'est-à-dire comment qu'on peut décoder ça. Qu'est-ce qui se passe dans notre cerveau quand...
Fait que là, tu veux qu'on se ferme les deux yeux puis qu'on t'écoute.
Oui, vous pouvez faire ça.
Mais respirer lentement.
On va mettre une petite musique de fond.
On n'a pas de budget.
Malheureusement, François, il n'y aura pas de musique. la perception visuelle, celle qui vous permet d'observer une certaine situation, est modelée par vous et vos expériences de votre entourage. La façon avec laquelle on voit les choses, on les observe, qu'on prend des notes des détails, définit cette perception et jusqu'à quel point on s'oriente vers ces détails.
OK.
Je sais, c'est un peu compliqué, là, mais vous allez comprendre
ce que
je
m'en vois.
Moi, tu m'as perdu à la perception. Non, c'est pas vrai. Le premier mot.
Lâchez-moi pas.
Oh, ça t'écoute.
Par exemple, un neurochirurgien, il a une perception visuelle super développée vers des très petits détails. Mm-hmm. Okay, c'est pour une évidence, c'est assez évident. Là. Il faut qu'il soit en mesure de voir ce que les gens normaux, entre guillemets, ne voient pas.
Mm-hmm.
D'un autre côté, les psychologues, ils doivent être capables de déceler tu sais, genre des micro-expressions.
Oui.
Ouais.
Savoir de si leur tu patient. Caches quelque chose, si tu mens, si tu...
Tout comme le policier, d'ailleurs.
Oui.
Comme le policier.
Ben, un policier qui fait un interrogatoire ou quelque chose.
Un enquêteur. Je te suis. Okay. Ils vont pouvoir se servir de ça ensuite pour diagnostiquer avec la vue d'ensemble de la chose. Mm-hmm. Là, nous autres, les photographes, on est comme d'une autre espèce. Notre perception visuelle, elle se scinde en plusieurs éléments qu'on doit observer.
Je savais que j'étais différent depuis le début.
J'ai toujours su, moi aussi.
Eh bien, je vais t'expliquer pourquoi. La lumière, OK, pour commencer. on en parle souvent de la lumière. Mm-hmm. C'est toujours difficile de bien percevoir la lumière, de l'analyser. Puis c'est quelque chose qu'on fait pourtant en partant. Okay? Quand on arrive en quelque part, on se met à analyser. C'est-tu une lumière dure? C'est-tu une lumière douce? Pour y arriver, il faut qu'on observe les ombres. Pas il faut, on observe les ombres qu'elle va former, qu'elle mm-hmm. va shaper cette lumière-là. Les contours. T'sais. Est-ce que la source est proche? Es-tu éloigné de notre sujet? Plus qu'on s'y attarde, plus que notre perception, elle va se faire rapidement mm-hmm. à ça. Autre chose aussi, c'est l'espace. Encore une fois, on entre dans une pièce, on ne peut juste pas s'empêcher d'observer l'endroit pour en juger les possibilités photographiques.
Trouver les angles.
Oui, exactement.
Tellement.
Puis ça, ça se fait en une fraction de seconde. Oh, ouais. C'est tout de suite, tout de suite. On a déjà compris que la lumière, puis notre esprit se dirige tout de suite vers d'autres choses.
Oh, moi, ça me prend une seconde là, quand même. Là,
ben, bon. C'est quand même rapide. Là,
là j'essayais d'être modeste tout en faisant une blague.
Puis là, tout de suite, notre esprit se dirige vers d'autres trucs précis. Comme par exemple, y a-t-il assez d'espace ici pour mettre mon sujet? Les couleurs sont-elles belles de l'endroit? Puis on continue vers encore plus précis après ça. On regarde les murs, les textures, la réflexion dans les textures, comment que ça sort, la provenance de la source lumineuse est où? T'sais? C'est où que de où ma lumière elle vient?
Est-ce qu'il y a assez de lumière?
Fait que je suis pas le seul qui se prend des photos, comment je pourrais dire, mentales
non.
souvent. Donc,
oh non,
okay,
non,
c'est
non.
bon.
Tu vois comment que notre esprit s'ajuste là, par rapport à notre œil de photographe, c'est mmh, comme ça. Mmh. Ensuite, il y a les éléments artistiques. Ça aussi, vous allez vous reconnaître, les gars, vous allez voir tout de suite. Là. Tant que nos yeux sont ouverts, on évalue les éléments artistiques dans chaque scénario où on se retrouve. Que ce soit la règle des tiers, les lignes de fuite quand on marche dans la rue, notre cerveau, il arrête pas de peaufiner notre perception visuelle pour accommoder notre goût de la photographie.
Notre vision oui. des choses.
Oui.
Combien de fois je me suis promené sur une rue le soir en me disant « Ah, là, les lumières avec les lampadaires ou le... »
Oui,
ouais, ouais,
c'est non-stop.
Pourquoi je n'ai pas mon appareil photo ouais. avec moi?
Oui, parce que là, tu viens pour prendre ton téléphone puis tu n'as pas
le même rendu, la même focale, la même affaire. Ouais, ouais.
Ouais. Ah non, c'est quand même incroyable. Puis la beauté dans tout ça, c'est qu'on n'arrête pas de s'améliorer dans notre perception. Il y a quand même une conséquence perverse à tout ça. Mm-hmm. C'est que on devient capable de détecter chaque petite erreur dans une photo au cinéma quand on va voir un film. Mm-hmm.
Mm-hmm. Oui, les mauvais. Surtout, ben, tu sais, je fais pas tant de vidéos, mais les mauvaises coupures, là, les mauvais changements de plan aussi,
ouais.
ou le mauvais éclairage, mais c'est rare que ça arrive. Là, dans un ouais. film, on s'entend, mais ça peut arriver.
Oui, les raccords, tu sais.
Oui.
On remarque vraiment des petits détails qui sont tellement pas importants pour le cours de l'histoire, mais c'est pas grave, on les voit pareil. Ça, ouais. c'est un peu le côté de désavantage de ça.
Les mauvaises transitions, là, tu sais, quand tu arrives puis tu dis, mettons, ça m'avait toujours marqué il y a plusieurs années, c'était dans Lethal Weapon. Il rentre dans un char l'un dans l'autre, puis tu as le capot qui est relevé, puis la scène d'après, le capot il est
oui.
descendu.
Ouais.
Là, tout le monde est comme, OK, pourquoi tu as vu ça? Je sais pas, moi, je l'ai juste vu.
Ouais. Oh, oui, c'est ça. Ça, c'est à force de travailler notre environnement, puis de vouloir
le sens du détail.
Oui, mais ça, c'est qu'il l'avait avant de faire de la photo, parce qu'il parle de l'arme fatale. Là,
oui, oui, clairement. Non, c'est mais ça fait des années. Ouais, ouais. ouais, mais moi, j'étais un artiste avant. Ah, je faisais du dessin puis de la peinture.
Oui, c'est vrai, c'est vrai.
Mais tu vois, à ça aussi, on s'habitue à ça, à voir les erreurs, puis on commence à apprécier à un moment donné encore plus le travail qu'il y a en arrière de tout ça.
Mm-hmm.
Puis c'est ça qui fait qu'à un moment donné, ben, on passe par-dessus, puis ouais. on est capable de suivre l'histoire.
Bon.
Donc, voilà.
Fait que finalement, ce que dans le fond, moi, ce que j'ai retenu, c'est qu'on est des êtres parfaits, c'est ça?
On est en chemin d'être parfaits.
OK, merci.
On est en route vers ça. La perfection.
C'est ça.
On n'y est pas encore arrivé, mais t'as raison, on n'est pas loin.
On n'est pas loin.
François parlait de lumière tantôt, là, c'est celle au bout du tunnel. Là. On approche.
Ah, c'est bon.
Ben, merci François pour ce bel exposé.
Mais c'est vrai, par exemple. Non, mais c'est intéressant pour de vrai. Je fais des jokes, mais c'est vrai. Je veux dire, tout ce que tu dis là, je me reconnais vraiment beaucoup là-dedans. Là.
Ah, je suis sûr qu'il y a plein de gens qui nous écoutent qui se reconnaissent aussi parce que c'est ça notre intérêt. Puis c'est de voir comment que ça shape vraiment une... C'est ça. T'arrives en quelque part. Moi, ça fait 24 ans que je fais ça. Même un peu plus. Depuis que j'ai commencé à toucher une caméra, j'avais 16 ans. Fait que je ne vous dirai pas mon âge, mais ça fait un bout. Puis ça, il n'y a pas un endroit que j'analyse pas la lumière, que je regarde pas comment c'est fait. Mm-hmm. Même si je m'en vais souper chez quelqu'un, je remarque tout de suite, ah, j'aime ça, cette belle lumière chaude là au-dessus de la table à dîner. Ça met une ambiance le fun. Puis là, je me vois prendre une photo.
Ouais. C'est fait combien de fois ça vous est... Je suis sûr que ça vous est arrivé à vous autres aussi. Là. Une photo banale. Là. On veut pas une photo écœurante ou rien de ça. Mais juste, tu dis, ah ben, tiens, retourne-toi. Pourquoi? Parce que la lumière est là.
Ah ouais. Oui, oui, oui.
C'est niaiseux. La personne, elle n'y a pas pensé pour deux scènes, là, mais c'est comme l'évidence pour toi. Là. Tu es comme, ben oui, mais là, si tu ne vois pas, ça va mauvais. Ah, j'avais pas pensé à ça. OK, ben, moi, oui.
C'est ça. Aïe, aïe, aïe. Bon. Et on va passer aux suggestions de la semaine. Christian, qu'est-ce que tu as pour nous?
Peinture de lumière. C'est pas la première fois qu'on en parle. C'est rien de nouveau.
Le fameux light painting.
Light painting.
Oui, oui, oui.
Mais j'ai trouvé quelqu'un qui en fait un Finlandais et c'est magnifique ce qu'il a réussi à faire.
Oui.
C'est rare. Tu sais, j'ai toujours aimé ça, mais lui, c'est presque une œuvre d'art. Là. C'est vraiment beau. Là. Qu'est-ce qu'il réussit à faire avec ça? Je sais pas comment il s'y prend. C'est incroyable.
Il sert du mode bulb à 60 minutes.
Oui, j'ai pensé aussi.
Voilà. Voilà l'utilisation.
Ben, ça, c'était dans l'autre épisode. Mais on parlait d'un appareil qu'on pouvait maintenir ouvert pendant 60 minutes.
Mais en même temps, le problème que tu as, c'est que ça prend plusieurs personnes pour pouvoir réussir à faire ça. Là. C'est pas juste une personne. Ah
ouais, ça te prend une équipe. Ou encore, tu éteins ta lumière, tu te changes de place, tu refais ta lumière, puis...
Puis tu sais, il y a aussi le fait que la personne, il a fallu qu'il réfléchisse à comment tu dois bouger pour réussir à avoir cet effet-là.
Absolument.
Là. C'est assez impressionnant ce qu'il a réussi à faire.
Non, vraiment, ça, c'est quelque chose à voir.
C'est vraiment beau, là.
Oui, en tout cas...
On dirait des fleurs ou quoi que ce soit, c'est beau.
Oui, c'est clair. Allez voir les notes d'épisode, ça vaut vraiment, vraiment la peine. Merci, Christian.
Ben, de rien.
Je suis impressionné.
Moi aussi.
Et j'ai envie... Tu sais, pendant longtemps, je vous ai parlé que j'avais envie de faire de la photo macro, tout ça. Là, j'ai l'objectif, j'en fais un petit peu à l'occasion. Je vais m'y mettre un peu plus, mais le light painting, ça
Ça, tu ça vois, m'intéresse. Moi, ça m'intéresse, moi aussi. Bon. Ouais.
Parfait. Un jour. François, tu vas être notre directeur photo, puis on va faire du light painting.
Oui, j'en ai déjà fait, que je vais pouvoir superviser.
Excellent. Alors, le projet pour cet été... Non, ça...
Correct, cet été, c'est loin. Les auditeurs ont le temps d'oublier.
Oui, OK. Je pensais qu'on allait se pratiquer d'ici l'été.
Ah, OK. Non, mais je vais vous donner des trucs. Là. J'en ai donné aux Finlandais.
C'est excellent. Toi qui est derrière tout ça.
Non. Lui, il a juste... il a fait comme j'ai dit.
Quelle modestie, ce François.
Ben, écoute. Je voulais pas en parler, là, mais...
OK, on va passer à la prochaine suggestion. Tiens, François, vas-y donc.
J'ai vu passer sur les internets cette semaine, ou il y a deux semaines, quelque chose comme ça, mais ça m'est resté un peu dans l'esprit. Un autre projet intéressant de quelqu'un qui s'est dit « Moi, je fais de la photo, j'ai envie de faire de quoi différent. » Le gars, il a pris sa lentille macro. Stéphane, tu pourrais peut-être même t'amuser à faire ce qu'il a fait parce que c'est vraiment intéressant.
Mm-hmm.
Il a pris ça. Il a pris des pilules.
Ah oui!
Il a pris bien des photos.
OK. Et là, c'est parce qu'on a un problème aussi. Il faudrait que je prenne des pilules. Je ne suis pas sûr que...
En fait, il a utilisé des pilules, mais pas pour les gober.
Ah, OK!
Il les a foutus dans un petit bol d'eau. Ça donne quoi? Ben, ça donne des super beaux time-lapse de pilules qui se décomposent. Tu as des couleurs, des textures... Évidemment, avec le timelapse, on voit tout ça.
Comment ils font pour penser à ça?
C'est vraiment beau. Puis, sérieusement, tu te dis, OK, dans mon estomac, c'est comme ça que ça se passe.
Ouais.
J'aime ça voir ça. Il y a comme une espèce de côté voyeur. Tu te dis, c'est comme ça que ça se décompose dans mon estomac. Mm. Bon, il n'y a pas de lumière pour éclairer.
Ouais, c'est ça.
Mais c'est ça qui se passe. C'est vraiment, vraiment fascinant. Cool. Ouais. Puis, c'est quelque chose qu'on peut recréer à la maison, pas trop difficilement. Je pense avoir lu en quelque part dans des forums de discussion ou des commentaires que le gars en question utilise une substance liquide pour accélérer la décomposition.
Quelque chose dans ce style-là.
Ouais. Ou peut-être un petit courant électrique ou quelque chose comme ça qui va faire décomposer plus rapidement. Évidemment, c'est un projet de longue haleine parce que ça se décompose en plusieurs heures. Je pense, je ne me trompe pas, une pilule.
Oui, je pense que j'ai vu 10 heures dans le texte en quelque part. Là.
Bon, fait que voilà. Fait que ça donne quand même de quoi de super joli. Puis, beau projet.
Ouais.
Ben merci.
Stéphane, toi, as-tu une bonne suggestion pour nous?
Ben, je ne sais pas si elle est bonne, mais j'en ai une.
Ah, elle doit être bonne, je ne suis pas inquiet, je suis pas inquiet.
Connaissez-vous Kendall Jenner?
Non, non, me dit quelque chose.
Moi aussi.
OK.
Moi, Bruce Jenner.
Non, OK.
Okay.
Non, pas Bruce Banner.
Ah non.
Non, ça non plus, oui.
Donc, Kendall Jenner, ben, c'est un mannequin et une personnalité de la télé américaine, qui a une vingtaine d'années, 22 ans, je pense. Puis, elle est sur Instagram beaucoup et tout ça. Puis, il y a un petit comique qui s'amuse à se photoshopper dans les photos de Kendall Jenner qu'elle publie sur Instagram. Lui, il a son propre compte, mais il s'ajoute dans les photos. C'est vraiment hilarant. Mais il est vraiment bon
parce que ça paraît pas tant que ça. Non.
Et c'est hilarant. Il se déguise. On le voit en danseur de ballet. Il fait des conneries. Vraiment, on le voit en sous-vêtements. Puis en tout cas, c'est déguisé. Il se Photoshop, on le voit sur une trottinette. C'est vraiment n'importe
mais
quoi.
Mais attends, ça me rappelle, on a déjà parlé de quelque chose dans le même genre, de quelqu'un qui s'ajoutait à des photos existantes. Mais
oui, mais c'était une Japonaise ou une personne asiatique qui s'ajoutait dans des photos d'elle à une autre époque, à un autre âge, ça se peut-tu?
Il y a ça, mais il y a aussi le même genre. C'est-à-dire quelqu'un qui utilisait des photos de personnes connues.
OK, ah, ça se peut, je me souviens.
Mais en tout cas... C'est toujours...
Mais il est bon, le gars. Il est écœurant, le gars, parce qu'il travaille très fort sur la luminosité, filtres, etc.
On parlait de ça, là. Il reproduit la direction de la lumière, l'intensité.
C'est ça, le truc. Il y a un travail d'analyse là-dedans.
C'est ça, le truc. Ouais.
De rétro-ingénierie des photos.
Exact.
C'est excellent. C'est vraiment drôle. Mais
allez voir le lien, ça aussi. C'est très, très comique.
Je sais pas comment qu'elle trouve ça, par contre.
Ouais, je sais pas, hein, mais j'espère qu'elle rit un peu, qu'elle est capable d'un peu d'autodérision, parce que c'est le type qui se ridiculise dans les photos. Il la ridiculise pas, elle.
C'est ça,
là,
non, exactement.
C'est vraiment très drôle. C'est, j'irais jusqu'à dire que c'est de bon goût, parce que c'est le type lui-même qui a l'air fou là-dedans, mais c'est juste drôle. En tout cas, moi, j'approuve ce genre de choses parce que ça atteint pas la personne qui est visée dans les autres photos, tu sais. C'est le genre de petit projet intéressant. Mais que ça prend du talent quand même.
Ouais.
Et du temps.
Et du temps.
Ouais.
Alors sur ce, bien, on va conclure ce 102e épisode. Merci beaucoup, François.
Ben, merci.
Merci, Christian.
Merci.
Merci, chers auditeurs. Et au prochain épisode, j'espère qu'on va avoir eu le X-T2, le Fujifilm X-T2 pour en faire la critique. Sinon, bien, on va trouver autre chose.
Ben, le médium format, sinon.
Oui, sinon, hein, le GFX 50X, ça pourrait être intéressant aussi.
Ouais, ouais.
Bon, pression. On verra bien. Mais non, sinon, on va voir qu'est-ce qu'on va vous mijoter. Ah, il y a. On va vous parler d'un astronaute qui explique comment il prend ses photos à partir de l'espace ou ses photos dans l'espace. C'est quand même intéressant, ça aussi. C'est
de la station spatiale.
De la station spatiale, oui. C'est Maxime Soriol qui nous a envoyé
ça. C'est drôle, je suis comme pas surpris.
Ouais, non, ben Maxime Soriol est recherchiste. Hein?
Je sais.
Il envoie du stock passé dans une journée. Fait que c'est pour ça. Puis il nous envoie des trucs qu'il juge intéressants ou pertinents. Fait qu'on l'en remercie.
Peut-être qu'on le paiera.
Non, mais j'allais lui offrir une augmentation de salaire pour 2017. Là. Okay. On vient
on
commencer
payer le
l'année.
Double ou le triple, si
moi,
tu veux.
Je double son salaire.
Ah,
là, vraiment.
God, quel grand cœur.
Moi, je suis le cœur sur la main.
Ah, écoute, je vais t'aider. Je vais coter.
Merci, les gars.
Ouais.
Alors, merci tout le monde d'être toujours fidèle au poste, fidèle à l'écoute. Et on vous retrouve à l'épisode 103.